Radio Okapi.
Okapi. Le journal avec Lucie Amba. Bonjour à tous, les principales articulations de ce journal qui remplacera Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil national des suivis de l'accord du 31 décembre. En tout cas, depuis hier, une commission a tenté en vain de résoudre ce problème. Dans ce journal, vous entendrez les impressions de Steve Mbikai. Arrestation à Lubumbashi d'une vingtaine de personnes dans la nuit de jeudi à vendredi au quartier Machu Picchu. Les forces de l'ordre recherchent les personnes à la base des cas d'incendie sur deux véhicules remorques survenus le mardi dernier dans ce quartier. Et puis des agents de la SNEL inventorient les récepteurs électriques dans les ménages de la ville-province de Kinshasa. Ceci a pour but d'établir un équilibre entre le courant électrique produit par la SNEL et l'énergie facturée. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Au centre interdiocésain, le problème du remplacement d'Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil national des suivis de l'accord du 31 décembre reste entier. Depuis hier, une commission a tenté en vain de résoudre ce problème. Selon quelques délégués, les discussions tournent autour des trois candidatures à ce poste, à savoir Vital Kamerhe de l'UNC, Eve Bazaïba du MLC et Pierre Lumbi du G7. Sur les travaux de ce vendredi en commission, Steve Mbikai n'a pas manqué de livrer son impression. On écoute le président du Parti travailliste et ministre de l'enseignement supérieur et universitaire au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Pour ce qui est de la répartition des postes ministériels, on est trop avancé. Il reste quelques petits points à régler pour conclure. Mais en ce qui concerne le remplacement du président du CNSA, on commençait déjà, mais on a un peu arrêté. Le problème est encore entier. Quand vous savez que le poste a été créé pour une personne, M. Tshisekedi, qui n'est plus avec nous. Ce n'était pas un poste créé pour une composante. En fait, il y a une difficulté dans la mesure où, dans l'accord, on avait mentionné que c'est le président du message du rassemblement. Or, dans les débats, eh bien, c'était un poste créé pour Étienne Tshisekedi. Selon moi, il faut qu'on voie qui sont des candidats et qu'on voie qui peut avoir des qualités qui approchent celles d'Étienne Tshisekedi, ce qui n'est pas facile. Mais il faut qu'on voie quelles sont les personnes qui peuvent avoir des qualités un peu plus proches. Alors, quand on aura désigné la personne, on saura, n'est-ce pas, à quelle composante elle appartient. Parce qu'aujourd'hui, il y a Vital Kamerhe qui est candidat, il y a, j'espère aussi, Eve Bazaïba, il y a Pierre Lumbi, et donc il faut débattre pour avoir un consensus.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge déclare que des contacts entre la CENCO, le président de la République et toutes les autres parties sont indispensables pour parvenir à un accord avant le 27 mars et à la nomination rapide du premier ministre de la transition. Didier Reynders l'a déclaré lors de la rencontre jeudi avec le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, et le secrétaire général, l'abbé Donatien Cholet. Hier vendredi, le ministre Reynders a aussi rencontré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la République démocratique du Congo, Maman Sambo Sidikou. Parlons encore du centre interdiocésain où un groupe des femmes de la plateforme politique dénommée Front National a déposé ce vendredi un mémo aux évêques. Une plateforme qui soutient l'opposition signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Dans ce mémo, ces femmes demandent à la CENCO de clôturer le lundi 27 mars les travaux sur l'arrangement particulier. Dépassant cette date, si rien n'est fait, ces femmes promettent de descendre dans la rue pour demander au chef de l'État d'en décider autrement comme garant actuel de la nation. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées à l'issue des opérations de bouclage menées dans la nuit de jeudi à vendredi au quartier Machu Picchu, dans la commune de Lubumbashi. Selon la police d'investigation criminelle, cette opération mixte police-militaire a été lancée pour rechercher les personnes à la base des cas d'incendie sur deux véhicules remorques survenus le mardi dernier dans la soirée à Machu Picchu. Entre-temps, des cas d'arrestation ont été complexes. Nelly Kabena. Ce vendredi matin, les habitants de Machu Picchu sont restés méfiants. Personne ne voulait commenter sur le bouclage de leur quartier. Toutefois, ils ont dénoncé les cas d'arrestation opérés par les militaires qui auraient fait recours à la force. La population évoque quelques dérapages car certaines maisons ont été vandalisées par ces hommes en uniforme. Cependant, au bureau de la brigade de la police d'investigation criminelle, on indique que parmi les personnes arrêtées, certaines avaient été identifiées au moment des faits, d'autres, c'est pour détention illégale d'objets militaires. Ils sont au total 26 civils et 2 éléments en uniforme, accusés de complicité dans les cas d'incendie. Toujours au bureau de la police d'investigation criminelle, 7 autres personnes ont été arrêtées quelques heures après ces incendies. Plusieurs grèves sont portées à leur charge. C'est entre autres la détention du chanvre et autres boissons à forte dose d'alcool, la détention illégale d'objets militaires et aussi le pillage des sacs de farine. Interrogé sur ces opérations de bouclage, le commissaire provincial de la police, général Jean Bosco Galenga, contredit cependant la version de la police criminelle qui évoque le pillage de la farine de maïs par les personnes arrêtées. De Lubumbashi, Nolika Bena, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la justice est caractérisée entre autres par le dysfonctionnement de ses principaux services, mais aussi par la surpopulation des maisons carcérales, aggravée par la lourdeur pour rendre les jugements dans les temps légaux. C'est en tout cas le constat fait par le vice-ministre national de la justice, qui a bouclé jeudi sa mission de 2 semaines dans cette province. Édouard Kiovekola était allé dresser un bilan des lieux de la justice au Nord et Sud Kivu. Il promet toutefois des sanctions. On écoute Édouard Kiovekola au micro de Denise Loukesson.
Il y a des irrégularités, ça on ne peut pas refuser. Il y a aussi la volonté de pouvoir aller en avant et on a parlé avec les concernés directement. Quant à ceux qui sont dans les cas de manquements graves, ça on va présenter les rapports à qui de droit et les sanctions suivront après. Nous avons constaté qu'il y a lourdeur de rendre les jugements dans l'état légal. Il y a aussi quelques difficultés effectivement liées à la justice, mais si jamais il y a des questions qui sont déjà prises à délibérer pendant 6 mois, ce sont des irrégularités. Donc c'est un problème majeur. On va faire les suivis avec nos partenaires de manière à ce que la loi puisse être respectée, comme a dit le chef de l'État. Pour moi, je pense que la loi existe à partir de la sanction. Quiconque violerait la loi, il serait sanctionné et cela pourrait décourager tous les violeurs potentiels qui se mettent à violer la loi chaque jour.
Affaire Germain Katanga, la Cour pénale internationale vient de rendre ce vendredi sa première ordonnance des réparations aux victimes. Il s'agit des réparations individuelles et collectives de 297 victimes des crimes commis par M. Katanga à Bogoro, en Ituri. Plus de 3 millions de dollars constituent l'évaluation monétaire approximative des préjudices subis par les victimes qui entrent dans le cadre de la responsabilisation de l'accusé. Le général de brigade FRDC, Germain Katanga, qui avait été reconnu coupable et condamné par la CPI. Ainsi, chaque victime recevra du fonds aux réparations, une structure autonome de la CPI, 250 $, selon le chargé de l'unité des sensibilisations à la CPI Kinshasa. Les représentants des victimes et la défense ont jusqu'au 28 juillet pour déposer leurs observations. Patrick Tchibui a été joint par Jeff Ngori.
La Cour pénale internationale a rendu son ordonnance de réparation par laquelle elle a ordonné des réparations individuelles et collectives en faveur des victimes des crimes commis par Germain Katanga le 24 février 2003 lors d'une attaque lancée contre le village de Bokoro dans le district de Ituri en République démocratique du Congo. Et la Chambre donc a ordonné des réparations individuelles à 297 victimes de M. Katanga, à savoir une indemnisation symbolique de $250 pour chaque victime, ainsi que des réparations collectives ciblées sous la forme d'une aide au logement, d'un soutien à une activité génératrice de revenus, d'une aide à l'éducation et d'un soutien psychologique. Mais compte tenu du fait de l'indigence de M. Katanga, le fonds au profit des victimes a été invité à considérer d'utiliser ses ressources pour ses réparations et a présenté un plan de mise en œuvre le 27 juin 2017 au plus tard.
Vous les avez peut-être déjà reçus chez vous, des agents de la SNEL qui inventorient les récepteurs électriques dans les ménages de la ville-province de Kinshasa. La Société nationale d'électricité a lancé depuis 2 mois maintenant les opérations d'identification des appareils électriques et des réévaluations de la consommation de l'énergie électrique. La première concerne plus les abonnés facturés de manière forfaitaire et la deuxième, tous les abonnés qui ont changé leurs habitudes de consommation. Ceci a pour but d'établir un équilibre entre le courant électrique produit par la SNEL et l'énergie facturée. Madame Bienvenue Monyango, directrice commerciale de la SNEL, explique à Jocelyne Moussaou Pondé.
Les clients peuvent modifier ses habitudes en termes d'utilisation d'énergie électrique ou en termes de finalité. Le nombre des occupants de la parcelle, ça peut être réduit ou augmenter et ça a toujours un impact sur la consommation. Par rapport au nombre de récepteurs, on diminue, on augmente, ça a un impact sur la consommation. On peut au départ faire appel à l'énergie électrique à des fins domestiques et du jour au lendemain, on a un commerce devant chez soi. Nous avons constaté un écart entre l'énergie que nous avons livrée sur les réseaux et l'énergie que nous avons facturée. Nous avons plus ou moins les heures que nous estimons d'utilisation de chaque appareil. C'est vraiment le minima. Nous tenons compte aussi des heures d'indisponibilité. Nous tenons compte des délestages, nous tenons compte des pannes et toutes ces heures-là viennent en réduction des heures ou des consommations que nous déterminons l'approche estimative.
Voilà, c'est la fin du journal. Merci de rester branché sur Radio Capi.